France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, on connaît de Berlioz sa musique, bien sûr, ses mémoires, ses critiques, ses nombreux écrits, parmi lesquels figure un fameux grand traité d'instrumentation et d'orchestration moderne. Une équipe d'éminents spécialistes, sous la houlette de Béatrice Didier et Emmanuel Rebel, mes invités, se sont penchés sur ce traité pour en proposer une lecture qui ouvre des perspectives qui vont bien au-delà du simple outil pour instrumentiste. Je vous propose donc de les découvrir avec ce livre, Berlioz, poète et théoricien de l'orchestre, regard sur le grand traité d'instrumentation et d'orchestration moderne qui vient de paraître chez Honoré Champion.
Sensible à nos gémissements. Il est signe certain, m'en donne l'assurance. Ferme l'esprit divin qu'inspire sa présence, que me sens élevé. Quelle lumière éclatante entoure la statue et brille sur l'autel. Pour annoncer du Dieu la présence si pleine. Ce Dieu sur nos destins peut s'expliquer lui-même. L'enfer qui nous a découvante se répand autour de moi. Ma terre est sous mes pas, lui et se précipite. Le marbre est animé. Profond silence. Elle, qui pousse à son aspect d'un orgueil de la puissance.
Dietrich Henschel, Les English Baroque Soloists, dirigé par John Elliott Gardiner, c'était un extrait d'Alceste de Gluck. Bonjour Béatrice Didier. Et bonjour Emmanuel Rebel, vous êtes donc les responsables de cet ouvrage. C'est un ouvrage collectif hein, qui réunit, je l'ai dit, des éminents spécialistes de Berlioz. Et vous êtes penché donc sur ce grand traité d'instrumentation et d'orchestration moderne pour en proposer une lecture qui ouvre justement des perspectives et des angles assez inattendus, je dois dire. Alors peut-être faut-il replacer l'ouvrage dans son contexte, en 1843, c'est ça? Qu'est-ce que ça représente dans son époque et dans la vie de Berlioz? Qui veut répondre? Béatrice Didier, peut-être?
Moi, ce que je pourrais dire, c'est pourquoi nous avons été amenés à nous occuper de ce livre qui n'est pas très connu, il faut bien le dire. Oui. Ce n'est pas l'œuvre de Berlioz la plus connue.
Ce n'est pas celle qu'on lit forcément par plaisir. Oui.
Et alors, pourquoi? Parce que nous avons, Emmanuel et moi, depuis plusieurs années, à l'École normale supérieure, entrepris des recherches sur des œuvres théoriques sur la musique. On a commencé par le dictionnaire de Rousseau. Rousseau, bien sûr, par l'encyclopédie méthodique, et puis on est arrivé à Berlioz. Donc c'est dans cette perspective des rapports de littérature-musique, sur lequel nous faisions un séminaire, qu'on a abordé le texte. Et personnellement, j'ai eu tendance à sentir un peu le côté littéraire du texte, tout en invitant aussi, bien sûr, des spécialistes et des musicologues.
Oui, oui. Donc, on connaît en plus la plume de Berlioz, on y reviendra tout à l'heure, parce que vous avez consacré d'ailleurs un chapitre à Berlioz et à son écriture. Mais c'est vrai, vous le disiez, c'est certainement pas l'ouvrage le plus connu de Berlioz, à part certains spécialistes un peu de musique ou des musiciens professionnels. Effectivement, on ne va pas se plonger dans un traité d'orchestration spontanément, mais c'est vrai que de par la teneur de ses écrits, on reconnaît quand même le style de Berlioz.
Oh oui, tout à fait.
Et souvent, on s'amuse quand même à lire, parce qu'il dit le hautbois peut être, je sais pas, un peu criard, le trombone. Enfin, c'est vraiment du Berlioz quand même. Il y a le côté technique, évidemment, qu'on ne peut pas ignorer, mais il y a derrière toujours cette plume assez ironique, quand même mordante de Berlioz. Béatrice Didier.
Ah oui, tout à fait, oui. Moi, j'aime beaucoup ce style de Berlioz parce que c'est vraiment le romantisme échevelé avec un lyrisme, une force extraordinaire, ce qui fait que c'est un ouvrage qui est évidemment très, très sérieux, très technique, et d'ailleurs Emmanuel en parlera mieux que moi, mais c'est aussi une œuvre littéraire, aussi paradoxale que ça puisse sembler, avec des textes qui sont très vivants, des métaphores parfois très drôles, les métaphores conjugales, par exemple, entre la harpe et le violon, des choses comme ça. Et puis, il y a vraiment des poèmes en prose, des véritables poèmes en prose.
Ouais, ouais.
Ça donne vraiment de ce livre quelque chose de soit d'unique, parce qu'il me semble que les autres traités d'instrumentation que j'ai pu lire, à commencer par celui de Kestner, qui est le seul à peu près contemporain, n'ont pas du tout cet aspect lyrique, pas du tout.
Ouais, ouais. Emmanuel Rebel, effectivement, si on fait abstraction donc du côté littéraire auquel on va revenir bien sûr dans ce traité de Berlioz. Comment est-ce qu'on peut le situer dans une perspective historique? On connaît quelques grands précédents, dictionnaire de musique, celui de Rousseau, vous étiez d'ailleurs venu à ce micro pour en parler, il y a eu ceux d'avant, il y a celui de Brossard, on pense à Prétorius. Comment est-ce qu'on peut le placer, ce dictionnaire de Berlioz des années 1840?
Il se place déjà dans un contexte où l'instrument même de musique et l'organologie musicale est en pleine évolution, en pleine expansion, avec un nombre de dépôts de brevets nouveaux qui est absolument étonnant. Et donc, il y a une sorte de vitalité dans l'ordre des instruments, avec, au-delà même du piano, qui est le nouvel instrument, mais je dirais presque tous les pupitres de l'orchestre s'enrichissent de nouveaux instruments, et notamment les bois, les vents. Il n'y a pas de nouvelle année qui passe au 19e siècle sans qu'un nouvel instrument soit inventé. Alors certains vont avoir la vie longue, comme le saxophone par exemple, mais d'autres sont plus éphémères, et il faut vraiment comprendre ce contexte très effervescent qui est un contexte rêvé pour un compositeur pour s'attacher enfin, je dirais, aux instruments de façon systématique dans un traité qu'il aurait dédié. Et c'est vrai que les antécédents de ce point de vue-là du XVIIIe siècle, comme par exemple ces magnifiques planches de l'encyclopédie au XVIIIe siècle consacrées aux instruments, faisaient partie d'un ensemble finalement beaucoup plus global. C'était déjà tout à fait passionnant à l'époque de voir notamment la question de la lutherie être vraiment placée au centre des réflexions, des lumières, mais il y a quelque chose de beaucoup plus systématique dans ce 19e siècle qui est celui de l'invention du grand orchestre et de l'orchestre moderne.
Thank you.
le début du troisième mouvement de la symphonie pastorale de Beethoven, l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par Leonard Bernstein, ceci pour illustrer le hautbois, parce que chacun des quatre extraits musicaux que nous allons écouter reflète des citations musicales du traité de Berlioz. Précédemment, nous écoutions Gluck, c'était pour les trémolos de violon, et Berlioz écrivait qu'il ne connaissait rien de plus dramatique ni de plus terrible que cet effet de trémolo réservé au violon 2 et à l'alto, donc de l'extrait d'Alceste que nous avons entendu, et là, c'était cet extrait de la pastorale pour le hautbois. Emmanuel Rebel, ce traité de Berlioz, donc qui paraît en 1843, je crois, c'est ça. Donc on l'a dit, c'est du Berlioz à lire, mais il y a quand même le côté technique sur lequel nous allons revenir. Est-ce que c'est également un témoignage de son temps, de son époque, de la musique de son époque, de la façon dont on entendait la musique, du goût de l'époque?
Ça l'est par les exemples justement que choisit Berlioz. C'est très impressionnant justement de consulter le traité, oui, et de le lire, parce qu'il est autant, je dirais, musical que littéraire par ces grandes partitions d'orchestre que Berlioz choisit d'imprimer. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il attribue à ce traité un numéro d'opus, c'est-à-dire qu'il le considère vraiment comme une œuvre, presque une œuvre musicale, par la collection justement de musique qu'il rassemble. Et donc, qui sont effectivement des musiques symphoniques comme celle de Beethoven, mais aussi beaucoup de musique d'opéra. Alors, on a parlé de Gluck, mais il y a aussi beaucoup de Spontini. Il y a même petit peu des Italiens l'aiment un peu moins, mais malgré tout, il y a du Rossini du Meyerbeer. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'un peu de Berlioz lui-même, mais il se met pas en avant de façon excessive, une fois, j'allais dire. Et donc, c'est vrai qu'il y a, un aspect qui peut nous faire entendre finalement ce que Berlioz avait dans l'oreille lorsque il entreprend la rédaction de ses articles, puis de ce traité à l'aube des années 1840.
Béatrice Didier, si on se focalise sur l'aspect plutôt littéraire de ce traité, vous l'avez dit tout à l'heure, comparé à ses antécédents, le style est tout autre parce que c'est Berlioz, et le style échevelé que vous avez souligné. Qu'est-ce que vous diriez sur... Qu'est-ce qu'il révèle du personnage, de l'homme, de l'écrivain et de l'homme Berlioz?
En fait, il est très révélateur, justement. Ouais. D'abord parce qu'il y a un côté autobiographique. Berlioz profite, si on peut dire, de ce traité pour raconter des épisodes de sa vie, parfois même se venger contre, par exemple, un chef d'orchestre qui était particulièrement empoté. Il en profite, évidemment, pour une anecdote qui n'est pas à l'honneur de ce pauvre chef d'orchestre. Donc, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques. Et puis, il y a aussi des scènes purement fictives, des images qui naissent, des images parfois d'un paysage, d'ailleurs. Il y a ce côté, justement, très paysagiste de l'écriture de Berlioz, qui est aussi un trait du romantisme, d'ailleurs. Et un langage qui est extrêmement, extrêmement imagé. En particulier, je disais tout à l'heure, ces métaphores familiales qui sont assez curieuses. Le hautbois, on en a parlé, a un cri enfantin. Il y a une sorte d'anthropomorphisme des instruments qui peut faire sourire, mais qui, d'un autre côté, est quand même très révélateur, je crois, d'une sorte de prise à partie de l'instrument par Berlioz. L'instrument fait partie de sa vie, presque de son corps.
Emmanuel Rebel, Béatrice Didier vient de parler d'anthropomorphisme musical, des images. Est-ce qu'on peut dire que automatiquement on est dans de la musique à programme, on s'éloigne de la musique dite pure, ou l'objet n'est absolument pas là?
Au-delà de cette opposition qui est parfois un peu stérile entre musique pure et musique instrumentale, il y a l'idée que pour Berlioz, l'orchestre est composé d'instruments qui sont des personnages, des personnages d'un drame muet en quelque sorte. Alors que la musique est un programme ou non, je dirais peu importe, parce que Berlioz, y compris dans les symphonies de Beethoven qui sont sans programme, tout au moins apparent, comme la cinquième ou la septième ou la huitième, eh bien il entend des sortes de drames muets dont les différents instruments de l'orchestre sont des personnages. Et ça explique aussi du coup pourquoi il recourt à toutes ces métaphores et à cette expressivité, parce que pour lui, l'usage d'un instrument doit avoir une nécessité expressive.
Thank you. Un extrait d'Iphigénie en tauride de Gluck avec Simon Kinleyside dans le rôle d'Oreste, le chœur et l'orchestre des musiciens du Louvre dirigé par Marc Minkowski. Dans son traité d'orchestration, Berlioz cite entre autres Iphigénie en tauride pour l'utilisation des trombones. Emmanuel Rebel, ce traité donc paru en 1843, quel a été son accueil d'abord en France puisque vous étudiez dans cet ouvrage collectif l'accueil en France mais aussi dans d'autres pays, comment il a été reçu?
Alors, de façon immédiate, le traité a eu assez peu d'écho dans la presse, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, d'autant que Berlioz s'est beaucoup activé pour mobiliser le réseau journalistique dont il faisait lui-même partie.
Bien sûr, ouais.
Et donc, finalement, l'importance du traité s'est plutôt manifestée dans la génération suivante, finalement celle de Bizet, de Saint-Saëns. Et Saint-Saëns, d'ailleurs, témoigne du fait que toute sa génération était lectrice de ce traité, et il a une expression que j'aime beaucoup, il dit finalement, nous avions l'imagination enflammée par Berlioz. Ce qui veut dire qu'on le lisait peut-être moins pour l'ensemble des détails techniques des instruments commençaient déjà à devenir obsolètes 20 ans ou 30 ans plus tard, mais pour cette espèce de d'imagination qu'avait Berlioz et qui se voit évidemment très très bien dans l'écriture de nombreuses pages du traité, puisque Berlioz rêve aussi à une sorte d'orchestre utopique. Et donc il y a aussi le détail empirique des instruments existants, mais il y a aussi ce que l'on peut faire avec un orchestre immense, par exemple. Donc un accueil en France, qui montre aussi qu'il a été utilisé dans les classes du conservatoire. Et ce traité continue à alimenter les jeunes générations de la génération de Ravel ou de qui en possédait un exemplaire à Montfort-l'Amaury ou Debussy, qui ont évidemment retenu les leçons de la musique de Berlioz, mais aussi qui ont continué à méditer sur ce traité.
Béatrice Didier, si l'on considère justement ce traité d'orchestration et d'instrumentation de Berlioz comme un objet littéraire, ce qui est possible, comment est-ce qu'on le situe dans ce 19e siècle romantique? Comment est-ce que vous le voyez?
Et moi, je suis frappée quand même par une certaine violence. La représentation de l'orchestre est violente. Berlioz parle de la férocité excessive des cymbales, par exemple. Ou bien il conseille de ne pas mettre ensemble le piano et l'orgue parce que ce sont deux souverains et que ça va être une guerre civile. Il parle des gloussements du basson, des rugissements des trombones. Et il y a des moments où on a l'impression qu'on voit un tableau de Boff, finalement. Hein. Ou bien aussi, tout simplement, les caricatures du temps de Berlioz qui sont souvent extrêmement réussies. Mais alors, à côté de ces moments de grande violence, il y a des moments, au contraire, de sorte de calme sublime, d'élévation quasi religieuse devant le sentiment de l'infini. Et alors, c'est là qu'apparaissent des paysages qui sont plus bucoliques, aussi il y a des paysages bucoliques. C'est vrai, c'est très varié, hein. Il y a des passages violents, mais il y a aussi des passages très, très tendres, très sereins. Des métaphores qui sont empruntées à toutes sortes de domaines, mais beaucoup à l'Antiquité. On voit que Berlioz a été nourri par
la lecture
de l'Énéide, de Homère aussi, bien sûr. Et par exemple, quand il dit « Il faut beaucoup de temps pour découvrir les Méditerranées musicales », j'adore cette expression, les Méditerranées musicales, « Il faut beaucoup de temps pour découvrir les Méditerranées musicales et apprendre à y naviguer ». Et là, il y a toute une sorte de référence à Ulysse, au fond, son voyage à travers les instruments, c'est comparé au voyage d'Ulysse à travers la Méditerranée, et puis finalement, pour nous, on pense à Joyce aussi, on pense à beaucoup d'autres choses, bien sûr. Mais je crois que ça donne bien cette mesure d'expansion qu'il y a dans le style de Berlioz, dans sa conception aussi de la musique, à sa conception du monde.
recevez nos offrandes. Moi, je les espérais, les vos faveurs sont grandes. De jeunes grecs, échoués sur ces bords, ont longtemps contre nous tenté de se défendre. Ils viennent enfin de se rendre, après de pénibles efforts. L'un d'eux est rempli d'un désespoir farouche. Les mots de crime, de remords étaient sans cesse dans sa bouche. Il détestait la vie, il appelait la mort.
Mireille Delinche, Laurent Naouri, le chœur et l'orchestre des musiciens du Louvre dirigé par Marc Minkowski. C'était un autre extrait d'Iphigénie en tauride de Gluck. Emmanuel Rebel, on a évoqué d'abord les cordes, ensuite les bois, les cuivres et là les percussions, les cymbales pour lesquelles Berlioz écrit qu'on n'a jamais produit un effet aussi comparable. Je crois que l'utilisation des cymbales par Gluck dans cet extrait du chœur des Scythes d'Iphigénie. Beaucoup d'instruments, mais aussi des voix, on a entendu depuis le début de cette émission, puisqu'à chaque fois, je l'ai dit, je me suis référé au traité, et Berlioz cite très très souvent l'opéra.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour nous aujourd'hui, quand on parle d'orchestration, on imagine l'orchestre symphonique tel qu'il s'est canonisé. Et en fait, Berlioz, dans son traité, a tout un chapitre sur les voix. Oui. Et ça, c'est très intéressant parce que il imagine justement que les voix constituent une sorte de pupitre, de quatrième pupitre de l'orchestre. Lui-même utilise beaucoup les voix dans sa musique symphonique, hein, dans Roméo et Juliette ou dans beaucoup d'autres partitions. Et donc là aussi, il y a quelque chose de très moderne finalement dans sa conception de l'orchestre, comme dans sa conception de l'instrument, puisque ce traité s'ouvre par cet axiome fracassant. Tout instrument, l'instrument, est en fait, on peut définir comme instrument tout corps sonore mis en action par le compositeur, ce qui est absolument sidérant pour l'époque.
Très bien, mais merci beaucoup Béatrice Didier et Emmanuel Rebel. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Berlioz, poète et théoricien de l'orchestre, regard sur le grand traité d'instrumentation et d'orchestration moderne qui vient de paraître chez Honoré Champion, éditeur. Il y avait aujourd'hui Laurent Lefrançois à la réalisation, à la technique Olivier Dupré, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bien évidemment, excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.